Dans le taxi qui me ramenait de l'aéroport à mon retour de vacances, j'ai eu l'occasion d'avoir une conversation longue, intéressante et étonnante avec ma conductrice. Longue parce qu'il nous a fallu 1h45 pour allier le centre de Paris depuis le terminal 2 et qu'on a eu tout le temps de disserter sur les travaux, les couloirs de bus, les pistes cyclables. Intéressante parce que ma chauffeuse de taxi a eu cette phrase déconcertante en commentant la chaussée béante, les poubelles qui débordent et les trottinettes à l'abandon sur le trottoir. Paris, c'est vraiment devenu une ville dégueulasse et j'en sais quelque chose, j'ai grandi à Marseille. Étonnante parce que l'emploi du terme dégueulasse, qui renvoie à l'expression France moche, est généralement employé pour désigner les zones en entrée de ville saturées de parkings, des paysages dont on dit qu'ils seraient défigurés et dévorés par les Auchan Drive et les ronds-points avec une sculpture de moule géante dedans. Pourquoi la même critique esthétique est-elle formulée à l'égard de grandes métropoles et de la France dite périurbaine? Dites-nous où vous habitez et comment vous y habitez, c'est quoi la France moche? C'est le sujet qui va nous occuper jusqu'à 13h.
Le débat du midi. Nadia Dame sur France Inter.
Et pour en parler, je suis en compagnie de trois invités. Bonjour David Habitant.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, spécialiste d'architecture, ça tombe bien. Vous êtes directeur de publication du magazine web Théma.archi, c'est comme ça
exactement,
qu'on dit.
Oui.
Les auditeurs de France Inter auront peut-être reconnu votre timbre, puisque vous tenez une chronique.
Oui, les samedis et dimanches de l'été à 7h20. Voilà.
Et j'accueille également Olivier Razemont, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des villes et des transports, journaliste et auteur de deux livres. Il y en a plus que
notamment,
ça, mais qui nous préoccupe aujourd'hui. Chronique impatiente de la mobilité quotidienne et comment la France a tué ses villes. Et en duplex depuis les studios de nos amis France Bleu Gironde, Olivier Chadouin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur, sociologue à l'École supérieure nationale d'architecture de Bordeaux. Vous avez étudié en particulier une commune, c'est la commune de Sainte-Foy-la-Grande. Pourquoi, en quelques mots, pourquoi ce lieu précisément et pas un autre? En quelques mots, c'est compliqué peut-être à résumer, mais...
Oui, je vais essayer d'être rapide. C'est une petite commune qui est une bastide du XIIIe siècle, donc il y a des qualités architecturales, etc. Qui a un faible nombre d'habitants, 2500 habitants à peu près.
En Dordogne, donc c'est
et
ça.
Et qui a le triste record d'être la commune la plus pauvre de Gironde et qui souffre de bien des maux dans son centre-ville avec évidemment une désertification commerciale, une paupérisation, etc. Enfin, un ensemble de thèmes dont on va, j'imagine, parler longuement avec vos invités.
Oui, bien sûr, on va y revenir. Simplement pour revenir sur ces termes, cette expression « la France moche », c'était l'intitulé d'un dossier qui a fait beaucoup de bruit dans Télérama, c'était il y a 10 ans, et qui employait dans les articles, dans les enquêtes, des mots très durs pour décrire le paysage français, en tout cas une partie du paysage français. Métastase périurbaine, empire du hangar, dégâts de la décentralisation, campagne dortoir. David Habitant, cette notion de France moche, est-ce qu'elle est pertinente pour décrire l'état du territoire français?
Elle est pertinente, évidemment que l'article est très intéressant et je crois qu'on l'a tous lu autour de cette table et voilà, Olivier Razemont pourra dire aussi combien ça a sans doute pu aussi changer les mentalités sur la question. Après, c'est vrai que c'est un terme assez dur, la France moche. Vous avez cité quelques extraits de l'article, moi j'en avais noté un. L'ennui qui suinte des quartiers périphériques. Je trouve que c'est là aussi où on aura l'occasion d'en reparler, je pense, dans le courant de cette émission. Mais c'est là aussi où il y a un constat sur l'état de la France aujourd'hui et de certaines villes. Il y a des solutions à proposer peut-être pour améliorer certaines choses, mais il ne faut pas oublier, bien sûr, que ce sont des endroits, tous ces lieux-là, où des gens vivent. On a des histoires, des souvenirs, etc. Et c'est toujours un peu dur, je trouve, d'en parler en ces termes.
Mais Olivier Razemont a un commentaire effectivement sur l'emploi de ce terme moche. Et puis il y a rien de plus subjectif que l'esthétique et la beauté. Sur quels critères on décide qu'un endroit est laid ou beau?
Ben je sais pas, c'est subjectif justement. Donc en fait, je pense que c'était volontairement subjectif. Et effectivement, c'est assez dur, mais ça a permis de en février 2010 de montrer ce qu'était l'étalement urbain. C'est pas forcément vu, notamment dans les cercles des décideurs, qu'ils soient d'ailleurs décideurs économiques, politiques ou médiatiques. On connaît mal cette notion d'étalement urbain. On sait que ça existe, mais c'est quelque chose d'abstrait. Et là, ça a permis de mettre un nom, un mot sur des choses que tout le monde voyait, tout le monde ressentait. Et évidemment, avec des termes très durs qui ont été très critiqués également. Il y a même un bouquin qui est sorti ensuite pour critiquer tout ça. Mais ça, voilà, on a, et l'autre période où on s'est rendu compte qu'il se passait justement des choses dans cet ensemble périurbain qui est jamais mis en avant. On n'en parle jamais. Quand on pense à une ville, on on voit la ville, on voit le centre-ville, on voit le marché, les commerces, la cathédrale, les petits balcons.
Ouais, on voit pas le reste. Sur les cartes postales, par exemple, on va voir les monuments.
Ni sur les cartes postales, ni sur les
pliants,
les représentations qu'on a, etc. Et l'autre moment où c'est apparu, c'est novembre 2018. On s'est rendu compte que il y avait non seulement tout un territoire qui n'était pas la ville, mais qui n'était pas non plus la campagne, mais qu'il y avait beaucoup de gens qui y vivaient et qui se passaient les choses.
Olivier Chadouin, vous voulez réagir ?
Oui, sur ce sujet, ça a été dit. Il y a un ouvrage qui est sorti après cette parution de Télérama qui s'appelait Contre Télérama d'Éric Chauvier, qui pointait quand même deux choses qu'il faut, à mon sens, rappeler parce que c'est un peu. Cet article a fait beaucoup de bruit. Pour plusieurs raisons. D'abord, il désignait deux choses. Il désignait à la fois les zones commerciales avec les hangars décorés, etc., mais aussi l'étalement urbain sous la forme pavillonnaire, lotissement, etc. Et ce faisant, ce qui a été reproché à cet article, à juste titre, je crois, quand même, c'est qu'il y avait une forme de jugement de classe, finalement, sur un mode de vie, qui est
de mépris social, une forme de mépris social. C'est-à-dire, quand on dit France moche, on désigne des habitants davantage qu'un habitat ou qu'une urbanisation.
Voilà. Ouais. Et puis, cette tentation qui est toujours présente sur un certain nombre de géographes ou même de sociologues de faire du périurbain comme une classe sociale, comme un groupe social. Or, on ne peut pas déduire comme ça un groupe social d'une position dans l'espace. Donc ça, c'est un autre problème. Et puis, ce piège du jugement de classe sur un mode de vie qui consistera à condamner ce mode de vie parce que il est consommateur d'espace, parce qu'il imperméabilise, parce qu'il prend la voiture, etc., etc. Voilà. Donc depuis, il y a eu énormément de débats autour de ce sujet-là, montrant notamment, il y a pas mal de travaux qui sont allés voir d'un peu plus près ce qui se passait dans ces quartiers pavillonnaires. Je pense encore une fois aux travaux d'Éric Chauvier, qui montrent que c'est pas si suintant d'ennui, comme je le disais.
Et pas uniforme non plus.
Olivier
Razan. C'est très uniforme. C'est aussi il y a une très grande diversité du périurbain. Mais la question, c'est très facile. En France, on adore ce sentiment de mépris réciproque, se sentir méprisé par les uns, par les autres. C'est très un grand, grand classique. Mais au-delà de ça, la vraie question qui se pose quand même, c'est on continue à faire l'étalement urbain aujourd'hui. Il s'est passé 10 ans depuis, on a continué massivement.
Je vous coupe parce que vous disiez vous-même que l'étalement urbain, on comprend pas forcément ce que c'est.
C'est le fait,
en quelques mots,
oui,
que,
c'est le fait de continuer à mettre.
Moi-même, on comprenne. Ouais.
Oui, bien sûr, c'est le fait de continuer à prendre des attributs de la ville. Pas forcément du centre-ville, mais de la ville, des attributs urbains, donc citadins, où les gens se retrouvent, se rencontrent, et de les mettre à l'extérieur. C'est typiquement ce qu'on a fait avec les hôpitaux, on a fait ça avec les maisons de santé, on a fait ça avec évidemment avec les cinémas, avec les zones commerciales, et on a une sorte de d'étalement de l'ensemble des activités de la ville dans un ensemble beaucoup plus vaste. Et ça pose des questions évidemment environnementales, ça pose des questions sociales parce que ça veut dire qu'on se rencontre moins. D'ailleurs, les Gilets jaunes l'ont très bien montré. Ils ont dit on va investir le seul espace public qu'on a, c'est les ronds-points. Et ça pose des questions également de perspective de la société. Est-ce qu'on fait finalement une ville pour l'humain ou est-ce qu'on fait une ville juste pour le consommateur motorisé ? Donc la question n'est pas celle du mépris des gens qui vivent là ou qui y passent, c'est pas ça le sujet. C'est une question...
Olivier Chadouin a l'air de dire que c'est quand même lié.
Ça a été ressenti comme ça, mais c'est ressenti comme ça. C'est très facile de ressentir de cette façon. Mais simplement, c'est aussi une question de comment on aménage ou comment en l'occurrence, on n'aménage pas, c'est-à-dire qu'on laisse faire. On n'aménage pas l'espace et là, il y a vraiment un problème d'aménagement du territoire en France.
Vous avez dit « on » plusieurs fois, David Débutant, c'est qui « on » qui est-ce qu'on doit désigner comme responsable de ce constat que vous êtes en train d'établir tous les trois ?
Oui, je crois qu'il y a beaucoup de responsables et aussi selon les objets, parce que c'est vrai que c'est pas la même chose la question de la décentralisation, d'un hôpital qui va être amené en périphérie par rapport à la création d'un centre commercial, par exemple, ce sont pas les mêmes décideurs, on va dire. Mais pour la question, ne serait-ce que les zones commerciales qui sont quand même assez symptomatiques de tout ce dont on est en train de parler, c'est plein de monde. C'est d'abord quelqu'un qui va acheter un terrain agricole pour 3 francs 6 sous, qui va le revendre à un prix pas possible dès que Leclerc a promis qu'il allait accepter de s'installer ici. Ce sont peut-être des maires aussi qui voient aussi une occasion d'avoir une action concrète sur leur territoire. Alors tant pis si ça va créer du chômage dans la ville d'à côté. Chez eux, ça ramène énormément d'emplois. Il faut pas oublier que c'est aussi beaucoup nous ce on, c'est-à-dire que faut bien penser à notre rôle en tant que consommateur. On participe à la créer aussi cette ville.
On va faire notre mea culpa à tous, mais d'abord une pause musicale. La banlieue, tu l'aimes ou tu la quittes. Lui, il a fait les deux, l'aimer et se barrer. On écoute Le Kid et son hommage à Créteil. C'est Beaulieu et Edith de Préto.
Tu es belle, immense, diverse, colérique, éclectique, tatouée de Nick. Tu parles fort, polémique et crée panique. Tu es violente, sans pitié, cryopédée. Tu es populaire, souriante et quadrillée. Pédagogue, au carré et bétonnée. Tu es aussi craintive, de feu plein les yeux, électrique. Tu es fleurie, remplie de pâquerettes et d'incendie. Au beau lieu, il vaut mieux que je te quitte. Je file mes poches sans fric. Au beau lieu, bel et bien ma favorite. Je garde toutes tes briques. T'insultes des mères, viole des frères, te bats pour tes terres. Te sens concerné, comme touché de la tête aux pieds. Il te pousse des ailes ambitieuses et ravageuses. Que tu dépucelles de haine, de force vénéneuse. Tu es voilé sous un tissu couleur dorée. Sous-estimé, tu brilles de frénésie et de fierté. Sur tout ton corps sont tatouées des perles d'or. Que tu gardes à tort mais flatte la rue, la mise à mort. Au beau lieu, il vaut mieux que je te quitte. Je file mes poches sans fric. Au beau lieu, bel et bien ma favorite. Je garde toutes tes briques. Au beau lieu, il vaut mieux que je te quitte. Je file mes poches sans fric. Au beau lieu, bel et bien ma favorite. Je garde toutes tes briques. Ici c'est pas pareil. Je garde toutes tes briques. Je garde toutes tes briques. Je garde toutes tes briques.
Vous êtes sur France Inter, c'est le débat de midi consacré à la France dite moche. Une émission préparée par Anna Massardi, à la technique aujourd'hui Nicolas Slimani.
Cette formule nouvelle correspond à un besoin de la clientèle. Ce magasin a été monté en dehors de la ville, avec un très grand parking. Ça a été fait, si vous voulez, à l'image de la voiture. Tout d'abord, facilité de stationnement. Deuxièmement, une distribution de masse dans le magasin qui permet de vendre beaucoup moins cher. Et vous avez notamment beaucoup de plaisir à vous promener dans ce magasin parce que vous avez des allées très larges. Les hommes eux-mêmes, qui habituellement étouffent dans les magasins, chez nous, en fin de compte, on a l'air très heureux. J'ai jamais entendu de réclamation à ce sujet.
Madame, je vous demande pardon. Comme des centaines de ménagères, vous faites votre marché le dimanche matin. Que pensez-vous de cette formule nouvelle ?
Je trouve que c'est formidable. Je travaille toute la semaine. Ça permet de faire les courses le dimanche matin, tranquillement. C'est une détente, en somme. Et puis, en plus, avec un parking comme celui-ci, les chariots, ça permet d'accéder à la voiture sans porter de sac. Enfin, c'est très, très bien.
C'était un micro-trottoir, ou plutôt un micro-parking, une archive enregistrée sur le parking d'une zone commerciale dans la banlieue de Nantes. David Habiton, on entendait la cliente être absolument ravie de disposer de ce grand supermarché et pas du tout se poser la question de la beauté du lieu, simplement c'est pratique.
Ouais, ça me fait penser, alors je sais pas quel est son avis, cette dame, sur la question de la France moche donc, qui nous occupe aujourd'hui, mais ça me rappelle, j'avais fait un petit tour à vélo à l'époque, ça avait duré un mois, et j'avais fait plein de villes en France pour parler d'architecture avec les gens que je rencontrais. Et je pense à un monsieur avec qui j'ai eu une longue discussion sur ces entrées de ville qui étaient catastrophiques, avec ces cubes moches, toujours les mêmes, qui abritaient des magasins. Et ce monsieur avait un sac Leclerc, en fait. Il parlait avec son sac Leclerc. Donc, en fait, c'est vrai qu'on a tendance à pas se rendre compte que tous ces lieux-là, en fait, en les utilisant, en consommant à ces endroits-là, on participe, évidemment, à générer cette ville-là.
Et c'est grave de profiter de ce qui nous est offert, des services qui nous sont offerts, d'aller faire ses courses, de profiter d'un drive quand on n'a pas le temps.
Je l'ai fait pendant assez longtemps pour pas pouvoir porter de jugement là-dessus. Et puis en plus, on parlait tout à l'heure du côté un peu jugeant qu'il y a en effet dans cet article de Télérama, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a une nécessité de consommer autrement, et c'est peut-être un peu ça qui est perçu mine de rien à travers l'article de Télérama dont on parlait. Pardon, j'ai perdu le fil, mais c'est grave. Ben oui, c'est grave. Oui, c'est très très grave. Et en même temps, il faut aussi qu'on puisse trouver d'autres manières de vivre, de consommer.
Olivier Razemont.
Non, je ne sais pas si c'est grave. On pourrait faire le même reportage aujourd'hui avec le même directeur de la zone commerciale qui expliquerait que tout est fait, tout est bien, que personne se plaint. Là, on a un sujet qui est vu comme personnel, mais le sujet en réalité, il n'est pas simplement personnel, il est en fait politique, c'est-à-dire qu'à un moment, est-ce qu'on continue à faire des nouvelles zones, là où il y a déjà un trop-plein de zones, il dit c'est à l'extérieur de la ville, on en a fait tellement autour des villes françaises qu'elles sont en train de mourir, parce que l'activité s'en va, les commerces ferment, les gens n'habitent plus là, contrairement à ce qu'on dit d'ailleurs, c'est plutôt les plus pauvres qui continuent à habiter en ville et les gens un peu plus riches qui habitent à l'extérieur, il y a aussi des gens pauvres, mais globalement, ceux qui restent en ville sont plutôt les plus pauvres. Donc en fait, tout ça a un effet quand même. C'est des choix qui sont à faire. Et quand on a dit on tout à l'heure, c'était très révélateur. On dit on parce que ça a semblé la chose la plus normale. C'est la pente la plus douce. C'est une série de plutôt de non-décisions qui sont prises où on se dit bah tiens, tant qu'à faire, on va développer. Moi j'ai croisé des maires de villes de 4000 habitants qui perdent des habitants tous les ans depuis 30 ans et qui m'expliquent qu'on va faire une nouvelle zone parce que comme ça va faire venir des emplois des habitants. Ça n'a jamais été le cas, mais il y croit et ça lui semble la chose la plus simple. Et finalement, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'est levé et qui lui a dit « Mais attendez, vous allez détruire encore plus votre ville », il va continuer à le faire. Donc la question n'est pas simplement de savoir ce que nous on fait. Bien sûr qu'on peut se poser la question, on peut se dire « Bon, il y a des moments où ça semble utile et intelligent d'aller faire ces courses-là. » Et puis peut-être pour d'autres situations, on peut éviter et on peut faire autrement et se dire « Bah tiens, peut-être qu'on a envie d'encourager aussi le commerçant de proximité plutôt que le grand groupe et ses actionnaires. »
On va écouter Olivier Chadouin qui voudrait réagir.
Oui, juste pour revenir sur tout à l'heure, on a abordé la question des responsabilités. Finalement, est-ce que c'est des choix individuels agrégés,
collectifs ou politiques?
Je voudrais juste rappeler quand même que c'est aussi l'effet de politiques publiques qui ont été mises en place dès les années 70. Le slogan de Giscard d'Estaing en 74, c'était « Je veux une France de propriétaires ». Et on l'a vu réapparaître, y compris avec le gouvernement de Sarkozy, et cette idée que l'accès à la propriété est un sésame, et la promotion de la maison individuelle a été faite dans les années 70 sur fonds de politique publique menés dans ce sens-là. Donc, c'est pas seulement les individus qui choisissent finalement, comme certains le disent, de faire sécession, d'aller habiter loin des villes, dans des pavillons, etc. C'est aussi l'effet d'un ensemble de politiques publics qui ont duré plus de 30 ans, qui ont façonné des esprits et des manières de penser l'accession à la propriété sur ce modèle de la maison individuelle. Donc ça, c'est un effet évident. Quant aux zones commerciales, elles ont beaucoup évolué aussi. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. Effectivement, aujourd'hui, il y a très peu d'élus qui s'opposent à l'extension ou à l'aménagement de nouvelles zones commerciales. On sait effectivement que...
Et pour cause, ce serait pas une très très bonne idée en termes de popularité de s'opposer à la création d'une zone commerciale.
De plus en plus, quand même. Alors, il y en a qui le font.
Olivier Razemont, pardon.
Il y en a quand même de plus en plus. Pardon, je vous interromps plus.
Il
y en a de plus en plus qui s'opposent et qui ont compris que ça posait un problème et qui disent attendez, on n'en veut plus. Le maire de Bourges a changé d'avis sur ce sujet, par exemple, la maire d'Avignon, etc. Non, c'est heureusement, il y a une prise de conscience.
Olivier Chadouin.
C'est vrai qu'il y a cette prise de conscience. Et puis, il y a un autre aspect qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que si vous regardez ces 5 dernières années les chiffres d'un groupe comme Auchan ou Carrefour, vous voyez des enseignes fermées et un chiffre d'affaires en diminution. Le modèle de consommation de l'hypermarché n'est pas distribué uniformément dans toutes les générations. Les jeunes générations ont d'autres modes de consommation que de remplir le caddie chaque samedi après-midi.
La livraison à domicile, en l'occurrence.
C'est ça, par exemple.
Ce qui pose énormément de problèmes aussi, au passage.
Olivier Razemont,
c'est
un problème de se faire livrer à manger.
En fait, on a des zones de logistique qui demandent énormément d'espace. Les gens qui investissent, parce qu'évidemment, ils se sont rendus compte que les hypermarchés, c'était plus un investissement très rentable. Donc maintenant, ils investissent dans les zones de logistique et ils disent, c'est simple, quand le client veut, alors je sais pas qui définit ce que veut exactement le client, mais quand le client veut être livré deux fois plus vite, il faut au moins deux fois plus d'espace supplémentaire parce qu'il faut des lasalées très larges, etc. Donc oui, ça pose énormément de problèmes, mais pas seulement en matière d'espace.
C'est un effet sur les infrastructures. David Habitant.
Ouais, peut-être juste un dernier mot sur la question de la responsabilité qui, bien évidemment, est partagée. Je veux surtout pas nous accabler, nous, en tant que consommateurs, parce que, encore une fois aussi, selon le lieu où on habite, on n'a pas toujours les mêmes choix, la même possibilité pour faire ses courses. Mais quand même, il y a quand même il y a tout aussi une autre manière de consommer qui est de plus en plus prônée par différents responsables, et pas que sur les questions de l'urbanisme, pour des questions écologiques, etc. On parle de tout ça. Et c'est vrai que c'est quand même des questions à se poser aujourd'hui. Est-ce qu'on est obligé d'avoir tous ces vêtements? Est-ce qu'on est obligé d'aller acheter une paire de chaussures tous les 3 mois dans la zone commerciale à côté de chez soi?
C'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde ne va pas s'acheter une paire de chaussures tous les 3 mois.
Vous faites bien de le dire. Voilà. Mais parfois, c'est vrai que c'est pas que de la consommation quotidienne où parfois on n'a pas vraiment le choix. C'est aussi peut-être des consommations un petit peu accessoires qui méritent d'être mettre en cause, à mon avis.
Je voudrais vous soumettre un commentaire d'une auditrice, c'est Julie, qui nous dit « La France moche, oui, mais la France pratique. À Agen, dans Lot-et-Garonne, à Bordeaux, les gens s'y installent, vont manger à midi dans les restos de ces zones commerciales. Les gilets jaunes y sont encore aujourd'hui. »
Olivier Razemont. Oui, c'est vrai, bien sûr. Mais oui, mais moi je vais jamais dire quel scandale, pourquoi vous faites ça. Je dis la question qui se pose aujourd'hui, c'est pas de détruire les zones commerciales existantes, c'est d'arrêter d'en construire. Et il y a encore des tas de gens qui veulent en construire. On leur donne des noms de villes d'ailleurs, Europa City par exemple.
Europa City, rappelle ce projet,
Europa
c'est un
City,
vaste projet de construction.
Monumental au nord de Paris, deux fois les zones existantes, deux fois Créteil-Soleil, deux fois les quatre temps de la Défense, etc. Et il y a des promoteurs qui expliquent qu'on a besoin de ce truc-là.
Parce qu'on est est au-delà du supermarché concernant Europa City, il va y avoir, c'est quasiment un parc d'attraction.
C'est pas seulement une zone commerciale, c'est aussi une zone de loisirs, une zone, il y aura des pistes de ski, il y aura toute une série de choses où il y aurait, si ça se construisait. Et c'est un exemple parmi d'autres, parce qu'il y en a plein d'autres, des exemples dans toutes les villes où je vais, on me parle de petites zones qui vont se créer, etc. Donc on continue à le faire. La question n'est pas de stigmatiser les gens qui aujourd'hui, effectivement, vivent de cette façon, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est quelle politique publique on mène, et il se trouve que le gouvernement n'a pas vraiment été très, très ferme sur ce plan. Il a commencer à prendre quelques mesures, mais c'est très 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 lent.
David Habitant.
On peut se réjouir peut-être justement puisque vous parliez d'Europa City. Il y a eu une vraie fronde des habitants et beaucoup plus large ça d'élus et de militants sur la question qui ont fait que le projet aujourd'hui est au moins retardé, si ce n'est peut-être abandonné. Et peut-être que, j'espère, j'ai beaucoup d'espoir, peut-être que Europa City, ça sera un de ces derniers projets qu'on a pensé comme ça. J'espère que demain, des projets de cette ampleur-là qui sont aussi inutiles, vraiment. Enfin, on est à quelques kilomètres d'un énorme centre commercial à côté. Enfin bref, ça n'a vraiment aucun intérêt.
Qui ne fonctionne pas en plus.
Voilà.
C'est-à-dire, on a des zones commerciales qui ont des cellules vides et on continue à construire des zones commerciales. C'est pas le seul exemple. J'en ai vu plein des endroits comme ça. À Saint-Malo, j'ai vu comme ça. C'est un truc qui s'appelle Cap Emeraude. Le promoteur, c'est Frey. Il y a déjà une zone à côté qui est en train d'être détruite et ou en train de péricliter et ils font quand même une nouvelle zone avec des nouvelles boutiques. C'est ça le sujet, en fait.
Olivier Chadon, vous avez une remarque à ce sujet-là?
Oui, à propos de Europa City, effectivement, c'est assez catastrophique. C'est sur des terres agricoles, en plus.
Oui, ça pose aussi des questions sur la protection de la biodiversité, en plus.
Absolument. Mais ce qu'il faut bien saisir aussi, c'est la manière dont agissent les groupes comme, par exemple, le groupe Immochamp, qui est le filiale immobilière du groupe Auchan. C'est que ces groupes agissent aussi comme des aménageurs. C'est-à-dire que lorsqu'ils s'emparent d'une zone, c'est pas simplement pour faire du commerce. Ils font aussi ils ont aussi des politiques de valorisation foncière. Ils achètent beaucoup plus large que la zone, ils installent le supermarché, créant un pouvoir d'attraction qui crée de la valorisation pour ensuite pouvoir louer des espaces à d'autres enseignes, etc. Donc c'est aussi un modèle économique qui est basé sur cette valorisation-là, qui fonctionne de cette façon-là. Et Europa City en est un exemple énorme, pour le coup. Mais ce qu'on voit avec Europa City aussi, c'est la manière dont le modèle du supermarché change. C'est-à-dire que vous avez le supermarché classique, qui est bon, le hangar avec le grand magasin, mais les modèles qui aujourd'hui font du mal au centre-ville, c'est les modèles, surtout avec les galeries marchandes, avec les boutiques à l'intérieur, qui effectivement...
Quand vous dites ça fait du mal comment? De quelle manière?
Ben, vous avez tout simplement des commerces qui ferment dans les centres-villes. Ouais. Voire qui se ferment pour se déplacer dans la galerie marchande.
Ouais.
Ce qui est le cas sur la commune que j'ai étudiée, c'est tout à fait le cas.
Mmh.
Même la pharmacie se retrouve
délocalisée en quelque sorte
dans la galerie marchande. Mmh. Oui.
Dans le centre de Semur-en-Auxois, en Bourgogne, 4000 habitants, il y a un marchand de produits bio et la zone qui s'est installée, le promoteur lui a dit si tu viens pas nous rejoindre dans la zone, nous on te met un concurrent. Voilà comment ça se passe. Donc évidemment, ça finit par détruire. Alors c'est parce qu'on dit que ça détruit les commerces, c'est vrai, mais ça détruit aussi la convivialité. C'est les gens qui se croisent dans le centre de Semur-en-Auxois, qui est une ville médiévale superbe au-dessus de l'Armançon. C'est
Olivier Chadouin, vous êtes d'accord, je crois, avec ce qu'il y a.
On se rencontre, on se croise. Et si on va plus aux producteurs bio, en l'occurrence, et s'il y a plus de magasins, qu'est-ce qu'on fait? On se croise plus. On va justement à la zone et on se voit simplement à travers les vitres teintées de sa voiture sur le parking de l'hypermarché.
Mais David Habitant, comment est-ce qu'on construit l'espace pour que les gens se croisent et se parlent et se rejoignent davantage, puisque c'est ce que vous êtes en train de décrire, ce serait la fin de ça.
Alors, pour répondre juste à l'envers de votre question, comment construire pour qu'ils ne se croisent pas? Alors là, c'est vraiment
ça,
ce que vous dites.
Faire, ça, on sait faire,
Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui me fascine, c'est la multiplication des drives. On a évidemment le hamburger drive, le Auchan drive, mais
des
on a
boulangeries
aussi
drive,
des boulangeries drive. J'ai vu ça à Fréjus, exactement, boulangerie drive. Et juste à côté, il y avait une caisse d'épargne drive. Donc,
rappelons ce que c'est, drive.
Donc, on arrive avec sa voiture, on a juste à ouvrir la fenêtre et en tapant sur trois boutons, on a sa baguette.
On a sa baguette ou son croissant.
Donc, on ne sort même pas de la voiture. Donc là, c'est-à-dire que pour être vraiment sûr de ne pas rencontrer ses voisins, pour être vraiment sûr de ne pas avoir la moindre idée de comment ils vivent et de surtout pas se confronter à une altérité, on reste dans sa voiture avec les fenêtres fermées, il n'y a aucun problème.
Une pause musicale, on va quitter la France, on va aller à Atlanta, Faye Webster, comme toi Atlanta, avec une programmation musicale signée Thierry Dupin.
Le débat du midi. Nadia Dam sur France Inter.
Le débat de midi consacré à la France moche. Une question à mes trois invités. Quand on dit France moche à certaines personnes, elles vont penser automatiquement à HLM, grands ensembles, et avoir encore une fois cette vision un peu esthétique de la France et se dire qu'un HLM c'est moche versus un immeuble haussmannien à opposer comme ça des édifices d'avis d'habitants.
Ouais, c'est alors là on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la question hyper subjective et évidemment du mot moche. Après, il y a plein de choses. Comment dire, il y a plein de nuances derrière tout ça. C'est-à-dire que déjà la première chose, c'est que il peut y avoir des bâtiments très intéressants. Vous disiez un HLM, on peut dire que c'est moche. Certains vont trouver par exemple l'architecture de Le Corbusier. Je le cite parce que pour le coup, je l'ai pas mal étudié dans le cadre de reportages. C'est des grandes barres comme ça, les unités d'habitation qui sont en effet très moches selon les codes habituels de la beauté et canon de l'esthétique, on va dire. Et il se trouve que ce sont des bâtiments très intelligents dans leur manière d'avoir été conçus. Et pour le coup, on y vit vraiment très bien. C'est-à-dire qu'il y a une vraie vie sociale qui est générée par l'architecture.
Enfin, vous le dites, mais ah ouais. vous n'y vivez pas. Pour le coup, les gens, les habitants que vous avez interrogés, ils vous disent qu'ils sont bien dans ces immeubles-là.
Oui. J'y ai vécu comme un journaliste. Bon, j'y ai vécu 3 jours, quoi. C'était dans le cadre d'un reportage. Mais c'est aussi, voilà, en rencontrant beaucoup de personnes que je me permets de le dire comme ça aujourd'hui. Et c'est vrai que quelqu'un qui connaît pas ce bâtiment peut l'assimiler à une architecture moche. Déjà, le fait de lui raconter, de lui expliquer l'histoire de ce lieu, de lui montrer toute l'ingéniosité de sa conception, déjà ça fait évoluer le jugement. Donc déjà, sur la question du beau, du moche, mine de rien, la connaissance peut nous aider aussi un petit peu à ouvrir nos jugements.
Ouais, Olivier Razemont, le béton, l'architecture répétitive, la hauteur, ce sont des critères en fait qui sont employés pour définir la beauté ou non d'un lieu aujourd'hui.
Peut-être, par certaines personnes, mais je pense...
C'est ce qu'on entend.
C'est ce qu'on entend, mais je pense comme David Habitant qu'en fait, la culture, la connaissance permet d'accepter et de trouver ça, sinon beau, en tout cas, beau et moche, vraiment, c'est vraiment subjectif. Mais l'exemple, c'est Le Havre. Le Havre est une ville qui est construite en béton, avec des formes très régulières. Et quelqu'un qui aurait cette image, une image de ville avec... qui au hasard serait Rouen par exemple avec des maisons à colombages un petit peu des cathédrales et des églises et des choses qui sont pas très droites etc dirait ben Le Havre c'est moche. Et en fait quand on regarde Le Havre avec une connaissance et qu'on sait quand ça a été construit, donc juste après la guerre, les villes de la reconstruction, comme on dit en Normandie, par un architecte, que ça a été pensé, c'est-à-dire qu'il y a 6,25 mètres entre chacune des colonnes, que les bâtiments ont été pensés d'une certaine façon, qu'on va voir l'église ou la cathédrale, je ne sais plus, qui est également tout en béton, etc. On voit différemment. Donc la culture permet, au bout d'un moment, de regarder différemment. Et là, Le Havre, maintenant, c'est reconnu à l'UNESCO, etc. Mais il y a toute une série de cités de banlieues, comme on dit, qui ont été également pensées par des architectes, qui en fait sont très belles, sont très intéressantes. Donc c'est vraiment une question de regard. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on va continuer à faire toujours la même chose ? C'est-à-dire que s'il n'y avait que ça, en Allemagne de l'Est, il y avait deux types de bâtiments HLM, en fait. Il y avait le tout plat et puis le haut, et puis c'est tout. Il n'y en avait que deux. Là, effectivement, c'est répétitif. Je pense qu'on a le droit de considérer au bout d'un moment que ça fait moche. Si par contre, on a une diversité, quand on se promène en Ile-de-France, on voit toute une série de bâtiments à habitat modéré qui datent des années 20, des années 30 ou beaucoup plus récents et qui sont magnifiques, qui sont très intéressants architecturalement et même esthétiquement.
Et ça frappe très plaisir à Antoine du Havre qui nous écrit et qui nous dit donc je suis originaire du Havre, ville largement décriée par de nombreux Français alors que le centre-ville est classé et qui a une vraie identité. David Habitant, vous voulez réagir?
Juste un mot sur ce que vous disiez à l'instant sur la question de la diversité d'architecture qui va créer une ville évidemment plus belle. La diversité aussi, elle peut venir aussi de certaines nuances assez fines, là encore, qui ne peuvent nous être connues qu'en nous intéressant vraiment à la question. C'est vrai que ça demande une analyse ou un petit travail de recherche pour pouvoir apprécier certaines choses. Là où les cathédrales, les églises, ces beaux bâtiments qu'on a tellement l'habitude de les citer comme de la belle architecture, culturellement, c'est beaucoup plus acquis que ce sont des beaux bâtiments. On se pose moins la question en fait.
Olivier Chadouin, vous soulevez un point qu'on n'a pas encore abordé dans cette émission. Vous parlez du mythe métropolitain, de la métropolisation. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Là, ça nous décale un peu dans, du sujet.
Mais faisons un pas de côté, mais je crois qu'il y a peut-être un lien, en fait.
Tout à fait. Il y a un lien, effectivement, parce que les communes dont on parle, qui sont, par exemple, celles dont parle Olivier Razemont aussi, dans son travail, la plupart du temps, sont des petites villes ou des villes moyennes. Le phénomène est moins pointé pour les métropoles. Les métropoles, c'est-à-dire Bordeaux, Paris, Toulouse, etc., qui, elles, ont des politiques d'aménagement, qu'on appelle des politiques de métropolisation, qui reposent sur la compétitivité, l'attractivité, la densité, et des formes de... d'attractivité à la fois touristique et économique. Voilà, on pourrait prendre le cas de Bordeaux que je connais bien, qui effectivement est dans ce registre-là. Et lorsqu'on s'intéresse aux petites villes ou aux villes moyennes qui sont loin de ces métropoles ou en périphérie de ces métropoles, sans arrêt, les gens vous renvoient à cette idée que le salut devrait venir de la métropole, parce que la métropole réussit, parce que elle attire du monde, parce que elle a une croissance démographique, économique,
etc. Je vous coupe,
etc.
Mais les gens, ce sont aussi les responsables politiques, locaux, les élus, quand vous leur parlez d'un village, d'une ville près de Bergerac, ils vont vous dire « Bordeaux ».
Tout à fait, oui. C'est ça. Oui, c'est le cas, sur le cas que j'ai étudié, donc Sainte-Foy-la-Grande, pour en parler encore une fois. Sainte-Foy-la-Grande se trouve à peu près à 25 kilomètres d'une autre ville moyenne qui s'appelle Bergerac. Beaucoup des habitants du pays foyen vont vers Bergerac. Bordeaux est à plus de 60 kilomètres, mais il n'y a rien à faire. Les gens vous parlent toujours de cette relation à la métropole bordelaise. Alors que finalement, les relations sont plus proches avec la ville moyenne d'à côté. Mais la métropole fait référence, y compris dans la manière de réussir. C'est-à-dire, la réussite des métropoles, c'est aussi l'économie de l'innovation, du tourisme, etc. Et c'est ce modèle que les élus de ces petites villes ont en tête aussi. C'est-à-dire que on a du mal à penser aujourd'hui un autre modèle d'aménagement urbain que celui qu'ont développé les métropoles, qui repose sur le recours à des projets iconiques en architecture, des architectes, un récit métropolitain, un développement du tourisme, des bâtiments iconiques, et surtout le développement d'une économie de la connaissance et de l'innovation.
Olivier Razemont, une fois qu'on a fait ce constat assez effroyable, comment est-ce qu'on réagit et comment est-ce qu'on peut imaginer la ville du futur, en tout cas celle que vous appelez de vos voeux? Par quoi ça passe?
Ça passe par une observation très précise de tout ça. Et il faut changer en permanence d'échelle. Il ne faut pas juste regarder un vaste territoire. Et il faut regarder également le quartier. Il faut revenir ensuite au plus haut, etc. Ensuite, ça passe, à mon avis, par une prise de conscience de l'ensemble des habitants. C'est-à-dire l'ensemble, je ne sais pas, mais en tout cas une majorité, de plus en plus de monde. Ça ne doit pas juste rester un débat de spécialistes. Et moi, je le vois à chaque fois que je vais quelque part. Je vois beaucoup de monde qui assiste à des réunions publiques sur ces sujets d'évolution de la ville. Ça part souvent du commerce parce que c'est la chose la plus visible. Mais après, on s'intéresse à l'avenir des rues piétonnes, au futur de la médiathèque, etc. Et là, les gens ont un avis. Et j'ai l'impression que plus les gens ont un avis, plus ils débattent entre eux, mieux c'est, parce que ça veut dire qu'ils sont attachés à leur ville. Il y a un manque d'attachement aux villes en France. Ça commence à venir peut-être, mais quand je compare avec l'Allemagne ou l'Italie, qui sont des pays où les villes, finalement, sont arrivées avant l'État, en France, c'est l'inverse. L'État est arrivé avant les villes. Il y avait un État qui était très présent. Et puis finalement, la Révolution, on a fait des départements, on a fait des préfectures et des sous-préfectures. Des chefs-lieux à l'époque, on disait. Et puis voilà, c'est des villages qui sont pratiquement devenus des chefs-lieux. Et donc les villes sont... La France, c'est il y a encore 100 ans, un pays majoritairement rural. Et aujourd'hui, on est en train, j'espère, de s'approprier les villes.
Dans les débats récents, il était question d'occuper le territoire au moment des gilets jaunes. Ce sont des questions qui sont revenues beaucoup dans le débat.
Oui, tout à fait. Oui. C'est un aspect un peu du débat des gilets jaunes qui a été un petit peu escamoté par tout le reste. Mais effectivement, il y avait vraiment cette question territoriale qui était au centre du débat, qui était et ils le disaient d'ailleurs dans leur proposition, où il y avait tout un tas de choses, c'était une sorte de je sais pas, d'inventaire incroyable, mais il y avait aussi ce truc: arrêtons de faire des zones commerciales, recentrons-nous sur nos villes, etc. Il y a l'idée, alors c'est pas seulement les gens, mais de manière générale, les gens ne veulent pas forcément habiter de la même manière quand ils habitent à Pamiers ou à Sedan, Pamiers en Ariège ou Sedan dans les Ardennes, parce que c'est pas le même climat, c'est pas les mêmes fruits de saison, etc. Donc je pense qu'il y a une réappropriation et on a besoin de ça. On a besoin, ça n'empêche pas d'être ouvert au monde, mais on a besoin également de se reterritorialiser.
David Habitant.
Et cette réappropriation, je pense qu'elle peut aussi beaucoup passer par la culture architecturale. C'est-à-dire que, alors je vous en parle parce que c'est vraiment mon domaine et nous, c'est ce qu'on essaie de mettre en avant à travers notre magazine web Théma.archi, vous le citiez tout à l'heure. Mais c'est que, c'est vrai que mine de rien, on ne parle pas d'architecture à l'école, on parle même déjà très peu de patrimoine et encore qu'on a d'autres biais pour connaître la question du patrimoine historique, on va dire. Mais je pense que c'est vraiment très très important. Il y a beaucoup d'initiatives qui se mettent en place. Il y a une organisation départementale qui s'appelle les CAUE. Il y en a dans chaque département qui font beaucoup d'actions
de
Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, qui font beaucoup d'actions de sensibilisation, notamment pour faire connaître au grand public la ville dans laquelle ils vivent, les enjeux architecturaux. Il y a des conférences, etc., qui sont organisées. Et je pense que ça aussi, c'est un vrai biais de réappropriation pour faire suite à ce que vous disiez, Olivier Razemont.
Olivier Chadouin, vous souscrivez à ça parce que ça a l'air très simple comme ça quand vous décrivez les choses à faire. Il faut prendre un peu moins sa voiture, il faut aller acheter son papier, il faut penser la ville différemment. Combien de temps ça peut prendre de changer notre manière d'habiter nos villes?
Je ne sais pas combien de temps ça peut prendre.
Et est-ce qu'on est prêt à le faire? Pardon, mais on voit bien que la voiture, la mobilité, c'est un sujet extrêmement sensible. Comment est-ce qu'on peut déshabituer les citoyens de ce qui peut nuire à leur habitat?
C'est ça en fait, le pivot de tout ça, c'est la voiture. Effectivement, le modèle de consommation, c'est nos parkings, nos business, donc c'est le modèle du supermarché. Le modèle d'habitat, qui est celui du pavillon, bah, il nécessite la voiture. Donc effectivement, ça nécessite de trouver des alternatives, parce que de toute façon, on va pas du jour au lendemain déserter ces zones de lotissement ou pavillonnaires. Elles sont construites, elles sont là. Ce qu'il faut, c'est penser comment elles vont vieillir, comment les gens vont y vieillir aussi, parce que on est loin des services, on est loin des choses, et quand on vieillit en lotissement ou loin des centres urbains, c'est une question sociale qui se pose. La question, c'est comment pouvoir vivre dans ces zones-là avec moins de voitures et quelles alternatives sont possibles.
Olivier Razemont, vous êtes spécialiste de transport aussi, ça tombe bien. C'est la faute à la voiture aussi?
Bah, clairement, il y a une question de voiture. C'est-à-dire que le modèle de l'urbanisme commercial s'est fait parce que la voiture est devenue un outil que la plupart des foyers possédaient. Et le problème, c'est qu'on continue à raisonner comme si tout le monde en avait une, ce qui n'est pas le cas, parce qu'il y a quand même 20% des foyers qui en possèdent pas. Et dans les villes, c'est plutôt 30-35%. Dans les grandes villes, c'est encore plus. Et puis par ailleurs, tout le monde n'utilise pas forcément pour tout. Mais on continue de raisonner de cette façon-là. Et tant qu'on continuera de raisonner en disant de toute façon, tout le monde a une voiture, on n'a qu'à organiser ça, on n'a qu'à mettre la zone un peu plus loin parce que de toute façon les gens iront en voiture, ben on continuera à avoir le même modèle. Donc effectivement, ensuite la question qui se pose beaucoup, c'est oui, mais avec ma voiture, comment je fais pour aller en ville? Parce que c'est vrai, et c'est une chose très simple que tout le monde peut comprendre, on peut pas mettre toutes les voitures au même endroit au même moment. Donc à un moment, il faut soit encourager ceux qui se déplacent autrement. Dans les villes italiennes, il y a des zones à trafic limité. Les gens qui peuvent passer en voiture, c'est les riverains, les commerçants, les taxis, et les autres se font autrement. Il y a des parkings pas loin, c'est pas un sujet.
Et ça a pas mis les automobilistes dans la rue?
Non, pas du tout. Non. Du coup, parce qu'ils l'ont fait depuis longtemps, parce qu'ils sont très attachés aussi à leur ville. Et dans la moindre ville de 2000 habitants, de 5000 habitants, bien sûr, dans les grandes villes aussi, à Bologne aussi. Et du coup, les gens font quoi? Ben, ils prennent les bus, ils sont à vélo, il y a plein de vélos dans toutes les villes d'Italie du Nord, parce que c'est la chose la plus simple. Donc, je dis pas qu'il faut que tout le monde se mette à vélo dans toutes les villes demain. Ça veut simplement dire, rationalisons cet objet, la voiture en l'occurrence, utilisons-la là où c'est, ou pour les trajets où c'est vraiment nécessaire, effectivement, bah, ça fait à certains moments des mécontents qui vont gueuler très fort. C'est vrai.
Et qui vote.
Oui, mais sauf que 6 mois plus tard, généralement, la chose est passée et on a accepté quand on a fait à chaque fois qu'il y a eu des opérations, soit de piétonnisation, soit de limitation d'accès dans les villes quelles qu'elles soient. Strasbourg, par exemple, assez vite, les gens se sont habitués, savent que c'est comme ça. La question, c'est faisons la ville pour l'humain et pas pour le consommateur motorisé en priorité. D'abord pour l'humain.
David Habitant, en un mot.
Non, allez, en deux mots, juste pour dire qu'on peut déjà quand même faire ces essais-là. Enfin, il y a plein d'infrastructures qui existent déjà. C'est à nous aussi, quand on va sur la route des vacances, on veut faire un arrêt. Il y a des parkings relais, on dépose la voiture, on prend le tram jusqu'au centre-ville. Ça existe déjà dans beaucoup de villes.
Olivier Chadouin, 3 mots pour vous.
Oui, simplement, effectivement, je pense que les gens sont prêts à faire ce changement de toute façon. On l'a vu d'ailleurs avec le débat des Gilets jaunes, ça a démarré sur une question de prix du gasoil, mais derrière cette question de prix du gasoil, la question qui était posée, c'était l'usage de cette taxe qui allait non pas à l'environnement, mais au CICE en l'occurrence, mais les gens sont tout à fait prêts à faire ces efforts-là, si les infrastructures derrière suivent, s'il y a les équipements et les mesures nécessaires.
Et on écoute Dominika Beaurivage.
Nous échouerons à Beaurivage, aurons perdu beaucoup de temps. Égaré dans des paysages qui ne nous allaient pas vraiment, aurons goûté en solitaire aux saveurs de tant de saisons, sans l'avoir prévu par temps clair. Sur Beaurivage nous échouerons, avant qu'on voie tes mondes meilleurs. À force de marche entravée, dans le vin déroulé des heures, avons révoqué la douceur sur des chemins de roses enfouies. Bientôt ne resterait d'ailleurs qu'ici. Nous échouerons à Beaurivage, l'endroit parfait qui nous attend. Par d'autres lieux pris en otage, aurons connu en solitaire les teintes de tant d'horizons, sans l'avoir prévu par temps clair. Sur Beaurivage nous échouerons, nous sommes heurtés à des barrages, à des croix tout juste dressées, à travers l'an des marécages. Sans chemin avons repoussé, essuyant des larmes d'orage, au fond de vallées dépeuplées. Nous échouerons à Beaurivage, l'endroit parfait qui nous attend. Par-delà l'an
Inter.
Et on touche presque à la fin de cette émission, mais d'abord, la question rituelle du mois d'août, j'aime demander à mes invités avec quelle personnalité, vivante ou disparue, célèbre ou anonyme, ils aimeraient pouvoir débattre courtoisement ou non, d'ailleurs, David Habitant.
Alors, en tant que fidèle de cette émission, j'ai eu le temps de la préparer cette question, et c'est pas du tout pour voilà, je parle pas du tout d'architecture ou de ville de France moche ou quoi. Il y a un débat moi qui me passionnerait, c'est tous ces artistes qu'on suit, qu'on écoute, tous ces chanteurs, etc. J'aimerais bien, je pourrais débattre pendant des heures de la signification de tous ces textes de MC Solar à Jul. Je pense qu'il y aurait des longues discussions.
Alors
à avoir.
C'est pas une grande palette, hein, MC Solar à Jul.
Écoutez, j'en ai sans doute d'autres. C'est les deux seuls qui me sont sortis. C'est les deux derniers que j'ai dû écouter. C'est pour ça que je vous dis ça.
Ok. Olivier Razemont, est-ce que voilà, vous voulez débattre avec Jules?
Martin Suter, ou Martin Suter, comme on prononce en français, qui est un auteur suisse-allemand qui écrit toute une série de romans. Je viens d'en terminer un et qui décrit de manière très précise. C'est des espèces de polars très enlevés et assez inattendus. Et j'aimerais vraiment parler avec lui parce qu'il décrit justement les lieux, les villes, la campagne aussi de manière, les saisons, il parle beaucoup des saisons et j'aimerais avoir un débat sur les saisons avec lui.
Olivier Chadouin, c'est votre tour, même punition.
Oui, c'est très difficile. Oui. On pense évidemment à beaucoup de monde. Spontanément, moi, je dirais Claude Lévi-Strauss. Pourquoi Claude Lévi-Strauss? Parce que c'était un des plus grands anthropologues du XXe siècle, mais il a surtout traversé le siècle. C'est lui-même qui disait « Je suis né dans un siècle, au début du XXe siècle, avec 2 milliards d'habitants sur la planète. Aujourd'hui, il y en a 6, et en 2050, il y en aura 9. » Et pour lui, c'était le plus grand bouleversement anthropologique.
Ah, donc effectivement, que, voilà, de Dempsey Solar
à Claude de tout cela avec lui.
De Dempsey Solar à Claude Lévi-Strauss, le panel est très large. Merci à tous les trois. David Habitant, on peut retrouver vos écrits sur votre magazine web théma.archi, je vais y arriver. Merci Olivier Razemont. Je rappelle au moins deux de vos titres de livres, Comment la France a tué ses villes et Chronique impatiente de la mobilité quotidienne. Et je remercie également Olivier Chadouin qui était en duplex avec nous depuis les studios de nos amis France Bleu et Gironde. Merci à tous les trois.